Bonjour, je suis Vanessa, bienvenue sur Iconic Talks, le podcast qui s'intéresse aux montres, aux amateurs d'horlogerie, à l'industrie horlogère et aux collectionneurs. Vous voici immergé dans l'univers de l'horlogerie, où chaque montre a une histoire à raconter, où chaque tic-tac éveille des souvenirs et des émotions. Comme le disait Aristote, être dans le temps, c'est avoir son existence mesurée par le temps. Aristote nous rappelle que le temps n'est pas seulement un concept abstrait, mais qu'il est également au cœur de notre expérience quotidienne, structurant et rythmant notre vie de manière essentielle. Ainsi, notre perception du temps est influencée par notre propre expérience, nos interactions sociales et notre compréhension du monde qui nous entoure. Dans cet épisode, nous allons aborder les concepts de la philosophie du temps qui passe et de l'émotion véhiculée par les montres. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Charmila Bertin, journaliste spécialisée dans le domaine de l'horlogerie depuis plus de 12 ans. Laissez-vous porter par son expertise et sa sagesse à travers cet épisode. Bienvenue dans le cinquième épisode d'Iconic Talks. Bonjour Charmila.
Bonjour Vanessa.
Charmila Bertin, fille d'expatriée, papa ancien journaliste à l'AFP, chef de région et reporter de guerre. Vous êtes née en Inde et avez passé votre petite enfance dans l'effervescence culturelle parisienne, puis à l'étranger, avant de revenir à Paris pour y faire vos études et démarrer votre carrière professionnelle, et enfin vous installer en Suisse il y a une quinzaine d'années. Vous êtes diplômée en traduction avec une spécialisation en affaires internationales, et vous avez rapidement orienté votre attention vers l'univers des montres, où vous avez acquis une expérience reconnue, explorant votre passion pour l'horlogerie. En tant que rédactrice en chef de The Watches Magazine, vous avez pris les rênes d'une publication trimestrielle pour la presse écrite et numérique. Votre dévouement envers cette industrie et votre capacité à rester à l'avant-garde des tendances font de vous une figure respectée et influente dans le monde de la presse horlogère. Charmila, quand et comment avez-vous commencé à vous intéresser à l'horlogerie ?
Alors déjà, Vanessa, merci de me recevoir et merci pour cette belle introduction.
Avec plaisir.
Et en fait, juste pour corriger l'introduction, cette année, ça va faire 20 ans que je suis en Suisse.
Bravo.
En fait, ça s'est fait un petit peu par hasard, mon arrivée dans l'horlogerie. C'est quand je suis arrivée en Suisse, j'ai mis un petit peu de temps à trouver du travail parce que surtout, j'ai emménagé dans la partie alémanique et je ne parle pas du tout allemand. Et puis, voilà. Et puis, 6 mois plus tard, en fait, une fois qu'on était bien installé avec mon mari, on a lu une annonce qui était pour une marque horlogère. Et il ne demandait pas de parler allemand. Au contraire, il demandait de parler espagnol. Et puis, je suis parfaitement bilingue. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'était en 2004 ou 2005.
Vous avez commencé, donc... il y a bientôt 20 ans, effectivement. Vous avez travaillé avec de nombreuses marques. Comment abordez-vous la question de l'émotion dans la communication autour des montres ?
Alors déjà, j'ai commencé par travailler pour des marques, chez des marques horlogères.
D'accord.
J'ai travaillé pendant 3 ans chez Omega. Et puis après, je suis venue m'installer à Genève et j'ai travaillé pour 2 marques ici. Et donc, j'avais la possibilité, en fait, une fois devenue journaliste, de savoir comment ça se passe à l'interne. Pour les marques. Et j'ai toujours trouvé qu'on n'accepte pas assez, que ça restait quand même... la façon de communiquer était très mécanique, un peu masculiniste, hein, si je peux me permettre.
Ouais.
Et qu'on ne parlait pas beaucoup des émotions. Alors que la première chose, quand vous baladez rue du Rhône et vous regardez dans une vitrine, le premier impact qu'une montre va avoir sur vous, bah, c'est son design, c'est son physique, c'est... voilà, elle va vous plaire, vous allez vous imaginer une vie avec elle, comment elle sera sortie à votre emploi du temps, à votre garde-robe, Dieu sait quoi. Et donc, c'est de toute façon, la première chose, c'est l'aspect physique de votre montre, l'esthétique. Et ensuite, vous allez vous intéresser à la mécanique, et d'éventuelles complications, à la marque si vous ne la connaissez pas, etc. Mais pour moi, le premier impact se passe au niveau du cœur, en fait, des émotions.
Justement, vous pensez que les montres ont une capacité particulière à évoquer des sentiments et même des souvenirs chez certaines personnes ?
Ah oui, mais complètement. Alors, je suis une très très bonne cliente pour ça parce que moi, je fonctionne vraiment mais à tout niveau, hein, par coup de cœur. C'est pas que les montres, c'est aussi, je sais pas, les habits, les gens, j'en sais rien. Et je pense que je peux vous citer l'exemple de la Tudor Pelagos avec le cadran bleu qui est sorti à Bâle il y a, je sais pas, une dizaine d'années, on va dire, je sais plus, j'ai aucune notion du temps malheureusement. Et quand elle est sortie, en fait, ce bleu, ça m'a ramené à des souvenirs d'enfance, enfin ça m'a projeté vers des souvenirs d'enfance quand j'étais petite, que je devais avoir, je sais pas, 8-10 ans et que je jouais avec mon frère qui a 4 ans de moins que moi au Playmobil. Parce que ce bleu-là, c'était le bleu des boîtes de Playmobil.
Oui, je vois bien.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marquée. Il y a aussi certaines montres, en fait, qui me rappellent mes années d'étudiante ou plein de choses comme ça qui me ramènent vers mon passé. Et du coup, ça donne à la montre actuelle aujourd'hui une dimension forte, alors que je n'ai pas nécessairement vécu une vie avec elle. Elle n'est même pas à moi, elle n'est pas sur mon poignet. Mais cette montre-là m'envoie vers un univers douillet qui me rassure.
Elle fait ressurgir des émotions qui sont très positives. En fait.
Exactement.
Et de vos expériences, avez-vous remarqué des tendances ou des thèmes récurrents, justement, dans la manière dont les gens perçoivent et interagissent avec le temps, mais à travers leur montre ?
Je ne sais pas trop comment les gens vivent leur montre. Il y a des gens qui vivent sans montre. Ça, je ne sais pas. Moi, quand j'oublie de mettre une montre parce que je suis partie en vitesse de chez moi, j'ai l'impression d'être toute nue.
Voilà.
Et je me sens mal à l'aise en général. Mais parce que du coup, il me manque quelque chose. C'est un peu comme si on sortait sans chaussures, sans sac à main, j'en sais rien. Mais je ne sais pas comment vivent les gens, vivent le temps, quelle influence le temps délivré par une montre peut avoir sur leur vie. Je sais que moi, c'est impératif d'en avoir une.
Je comprends. Moi, je souscris entièrement à ce que vous dites. Sharmila, comment pensez-vous que la philosophie du temps qui passe peut enrichir notre compréhension de la vie quotidienne et notre relation avec le passage du temps ?
En fait, pour moi, c'est simple, parce que le temps, c'est le seul facteur, le seul paramètre que tous les êtres vivants sur cette planète ont en commun. C'est-à-dire que vous soyez petite, grande, jeune, vieille, grosse, j'en sais rien, que vous soyez pauvre ou riche, que vous soyez un bipède ou un animal à quatre pattes, un insecte, vous avez une durée de vie, vous avez une durée de présence sur cette planète. Et ça, vous ne pourrez rien changer. Donc c'est vraiment la seule chose qu'on a tous en commun. Vraiment, c'est le temps, c'est vraiment le seul paramètre qui nous réunit tous.
C'est vrai, voilà. C'est vrai. Je crois d'ailleurs que vous trouvez que la notion du temps qui passe, qui est découpée en heures, en jours, en semaines, en mois, est assez absurde. Pouvez-vous nous parler de votre propre perception du temps et a-t-elle évolué au fil de votre carrière ? Est-ce que la carrière dans l'horlogerie a fait que vous avez une perception qui a changé ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai aucune notion du temps, ce qui est étrange. Mais non, c'est vrai que je ne supporte pas ça, le fait de me dire qu'à telle heure, je dois faire ça, que mes journées doivent être remplies pendant 8 heures à me consacrer à un travail, que je suis obligée de travailler du lundi au vendredi, que pourquoi les week-ends font que 2 jours. Moi, j'aimerais bien des week-ends de 4 jours. Enfin, il y a plein de choses qui m'agacent et c'est vrai que moi, je vis sur mon rythme à moi, en fait. Si je n'ai pas d'inspiration, parce que c'est ça aussi, je ne suis pas une machine à écrire, hein, vous ne me branchez pas et je vous fais un article de 2 pages, hein, ça ne marche pas comme ça, il faut que je sois inspirée, sachant que j'écris quand même beaucoup d'articles et toujours sur le même sujet. Donc il me faut des inspirations et le lundi matin, j'ai plus envie d'aller me recoucher ou d'écouter un podcast ou de lire un bouquin ou de peindre ou de m'occuper de mes plantes plutôt que de me mettre devant mon ordinateur et me dire « Vas-y, t'es parti pour 3000 signes ». Donc non, ça, je ne peux pas faire. J'aime bien faire c'est pour ça que j'aime bien travailler le soir, voire la nuit. J'aime bien travailler le week-end. Mais c'est vrai que je suis un animal, en termes d'inspiration, je suis un animal nocturne. Parce que la nuit, c'est le seul moment où personne ne va vous déranger. Pas les enfants, pas le téléphone, pas les emails. Personne pour vous perturber. Et en fait, j'ai des souvenirs mémorables de dossiers de 8-10 pages sur Breguet, par exemple, que j'ai écrit toute une nuit. Et puis à la fin, une fois que vous avez le point final, que vous avez relu, que vous avez enlevé les répétitions, les fautes, les machins, et moi je sors sur la terrasse, parce que fumer ma cigarette, parce que je fume des cigarettes, et je regarde le soleil se lever et le ciel devenir rose, etc. Et en fait, je suis surprise, agréablement, mais même avec une pointe de déception, de me dire, je ne suis pas avec Abraham-Louis Breguet au XVIIIe siècle, je ne suis pas à Paris, là, on n'est pas en 1775, je suis en 2020, 2024, et dans un monde contemporain, je suis presque déçue, mais je suis heureuse d'avoir, entre guillemets, passé la nuit avec lui.
Vous étiez dans un autre temps.
J'étais dans un autre temps, j'étais dans un autre monde grâce à lui, et Dieu sait que j'ai beaucoup rêvé d'Abraham Lubrin.
Justement, comment percevez-vous la notion du temps dans l'art horloger ? Est-ce que c'est une représentation purement mécanique, ou bien y voyez-vous une dimension plus profonde, presque métaphysique ? Est-ce que c'est une montre, c'est simplement un objet qui indique le temps, ou pas justement ?
Je vais en blesser quelques-uns peut-être, mais effectivement la mécanique c'est important, je remets ça en question. Mais non, moi, pour moi c'est purement un objet émotionnel. C'est quelque chose qui vous a été, je ne sais pas, transmis par votre père. C'est un cadeau de votre amoureux, ou c'est même un cadeau de vous à vous. Et c'est quelque chose qui vit sur votre peau, en fait. Je ne sais pas si on peut faire plus intime que ça.
C'est vrai.
Donc, c'est quelque chose qui est fusionnel avec votre peau, avec votre poignet. Et puis, je ne suis pas en train de vous parler d'un membre inutile. On parle de votre bras, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Et puis, votre mouvement en vous donne vie au mouvement de votre montre.
Et à votre avis, l'aspect le plus fascinant, justement, que peuvent avoir les individus avec leur montre, une relation charnelle, une relation...
Alors, moi, effectivement, j'ai une relation charnelle avec mes montres, très intime, comme je vous le disais, comme je peux avoir une relation charnelle avec mes enfants, avec les gens que j'aime. Ce que j'aime pas, c'est l'aspect un peu statutaire que peuvent avoir certaines personnes, de relations statutaires que peuvent avoir certaines personnes avec leurs montres. S'acheter telle marque parce qu'elle représente ça, ou tel modèle parce qu'il est très convoité, alors que du coup on efface la notion d'émotion et de coup de cœur, aussi bête que de passer devant une vitrine d'une boutique.
Oui.
Donc ça, c'est quelque chose qui m'a...
Bon, il y a le côté investisseur que vous n'avez absolument pas, justement. Vous êtes vraiment dans le côté émotion pure de l'objet.
Complètement.
Et pensez-vous que les montres, justement, jouent un rôle dans notre vie quotidienne, au-delà de leur fonction purement pratique ?
Est-ce qu'elles jouent un... en fait, pour moi, elles font partie de la panoplie, en fait, de moi. Je veux dire, je vais m'habiller et, je sais pas, je vais enfiler un pull, des chaussettes, un pantalon, une montre. Et donc pour moi, elles font partie de ça. Après, la montre, est-ce que je la regarde ? Pas nécessairement. Je ne vais pas regarder l'heure. Mais en revanche, je vais avoir sa présence sur moi et elle va me rassurer. Et si je ne l'ai pas, ce que je disais juste avant, je suis toute nue, je suis perdue. Pas parce que je n'ai pas l'heure, parce que ça, à la limite, je m'en fiche, puisque je peux toujours l'avoir sur mon téléphone. Je peux toujours demander à quelqu'un dans la rue quelle heure il est. Mais il me manque quelque chose, en fait.
Un objet réconfortant.
Complètement.
Une montre peut-elle posséder une âme unique, une émotion ? Et si oui, comment cette essence particulière influe-t-elle sur votre travail ?
Je ne saurais pas répondre à cette question.
Elle dégage une émotion.
Oui, je vais pas dire que 100% des articles que j'écris sont sur des montres qui à première vue m'ont touchée, parce que ça serait vous raconter des bêtises.
Mais l'émotion peut être négative également, justement.
Alors les émotions négatives, j'en veux pas, en fait.
Mais si une marque
j'en ai suffisamment dans la vie, donc j'en veux pas.
Si une marque vous demande d'écrire et que l'objet ne vous plaît pas, comment allez-vous justement transformer cette émotion pour la restituer ensuite sur le papier ?
Alors, ma réponse ne devrait pas être politiquement correcte, mais je m'en fous.
C'est pas grave.
Voilà. En fait, si c'est une marque qui me demande d'écrire, c'est moi qui vais choisir le modèle. Ça, c'est impératif. Donc, je vais trouver un modèle qui, moi, m'évoque quelque chose. Si c'est vraiment très compliqué, j'aime pas la marque, j'aime pas la montre, etc., je vais la refiler à mon adjoint parce qu'il est là pour ça.
Le temps, est-ce une limite pour l'homme ou plutôt un atout ? Est-ce qu'on a conscience du temps qui passe ?
J'aimerais vous répondre que c'est un atout, mais ça ne l'est pas. Parce que le temps, pour nous, il a un début et une fin. Et ça, on en est conscient. Moi, j'ai, contrairement à mon mari, une notion du temps qui est presque anxiogène. Parce que je me lève le matin et j'ai besoin de vivre, en fait. J'ai besoin de me sentir vivante. J'ai besoin de sentir que chaque heure qui passe, elle a été utilisée à bon escient. Que ça soit pour les lessives, des trucs aussi bêtes.
La vie quotidienne.
Voilà. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir l'impression que ces 60 minutes, je les ai vécues. Je les ai pas juste, j'ai pas regardé le plafond et j'ai rien senti passer, ce qui arrive aussi. Mais j'ai besoin vraiment de me sentir vivante à travers le temps.
Vous trouvez que les journées ont suffisamment d'heures avec 24 heures, vous aimeriez pouvoir étendre le temps et que ces journées soient plus longues, bah, pouvoir faire tout ce que vous aimez faire.
C'est un peu la problématique qu'on a, sans vouloir avoir, tenir un discours féministe, hein, mais nous, on a une charge, les femmes, on a quand même une charge mentale démentielle. Terrible. Et en fait, ma préoccupation depuis que je suis maman, c'est comment arriver à créer du temps. Alors, j'ai la chance de pouvoir travailler vite une fois que je suis inspirée et puis je peux être très, très efficace. En une heure, faire des choses que certaines personnes auraient besoin de trois heures pour faire. Mais je trouve que sur nos épaules, on a quand même, nous, cette charge qui fait que on valorise un peu plus le temps. Et on cumule le fait d'être professionnelle, d'avoir des enfants, d'aller... Voilà,
c'est ça, on cumule plusieurs vies.
Voilà, et parfois, à la fin de la journée, je suis là, mais j'ai fait tout et n'importe quoi de ma journée. C'est-à-dire que j'ai fait, en gros, la femme de ménage, j'ai fait la maman, j'ai fait la rédactrice en chef, j'ai fait l'attachée de presse, enfin, la relation publique, des relations publiques avec des attachés de presse. Et en fait, à la fin de la journée, c'est physiquement et psychologiquement, ça peut être épuisant.
Aujourd'hui, on trouve l'heure partout, des portables aux fours micro-ondes. Que serait devenue l'horlogerie, cet art vieux de 7 siècles, si elle n'émouvait plus ?
Alors, moi, je vous lance le défi de scotcher votre micro-ondes à votre poignet. Déjà, pour commencer. Mais je sais pas, je pense que c'est important de continuer à maintenir cet art vivant, parce que c'est un art vivant et le temps, c'est une science qui est vivante et qui est tout le temps toujours en mouvement. Et c'est important aussi de la part des marques, de la part des acteurs dans l'horlogerie, de continuer à perpétuer cette tradition, une chose, par les objets qu'elles produisent, par la communication, etc. Mais je pense que c'est aussi à nous, en tant que parents, de léguer ce patrimoine, si vous voulez, à nos enfants. Comme vous pouvez développer une attirance pour la musique ou aiguiser un appétit artistique pour votre enfant, c'est la même chose avec l'horlogerie. Mes deux enfants, ils sont depuis le berceau conditionnés pour comprendre l'horlogerie, pour aimer l'horlogerie. Je ne leur demande pas de travailler dans l'horlogerie plus tard, ils feront ce qu'ils voudront de toute façon. Mais qui sache ce qu'est une montre, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter.
C'est un art et il faut éduquer nos enfants à l'art de toute façon. Et comment percevez-vous l'impact des nouvelles technologies sur l'industrie de l'horlogerie traditionnelle ?
Je sais qu'on a eu ce débat il y a plus de 5 ans quand l'Apple Watch est sortie. Je sais qu'on c'était très à la mode quand c'est sorti, de débattre sur le sujet. Un petit peu moins maintenant. Est-ce que vraiment ce type de entre guillemets horlogerie phagocyte l'horlogerie traditionnelle ? Je ne crois pas.
C'est venu en complément, en fait. Vous avez souvent les gens qui sont des amateurs purs d'horlogerie et qui aiment aussi l'Apple Watch pour le côté technologique. En fait, souvent, ils portent les deux montres.
Alors, j'ai pendant très longtemps porté les deux.
Ah, voilà.
Et la raison pour laquelle je ne porte plus mon Apple Watch, c'est parce que la cocotte, elle a une durée de vie.
C'est ça.
Et donc là, elle est morte.
Les poubelles.
C'est les poubelles ou je ne sais pas, je l'encadre, j'en sais rien, mais elle ne sert plus à rien. Quoi.
Oui, pourquoi pas en faire une œuvre d'art ? Ça reste de l'art, hein, c'est de l'horlogerie.
Mais c'est vrai qu'en termes de design, cette montre en particulier, c'est un bel objet. Maintenant, les trucs, pour moi, c'est plus, je le vois plus comme le prolongement de mon téléphone. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça m'évite d'avoir mon téléphone tout le temps dans la main. Par exemple, quand je suis dans des salons, d'avoir un calendrier, du coup, j'ai mes rendez-vous de voir des rendez-vous au poignet, de WhatsApp ou des appels, de voir qui m'appelle, qui me contacte, est-ce que c'est urgent, pas urgent. Et c'est vrai que c'est moins dérangeant, c'est moins, c'est moins addictif qu'avoir son téléphone tout le temps dans la main.
Je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai que ces nouvelles technologies peuvent aussi permettre quand même à l'horlogerie en général. Parce qu'il n'y a pas que l'Apple Watch, il y a toutes les technologies qui nous permettent de créer aujourd'hui des pièces horlogères très compliquées. On a les montres à complications qui étaient fabriquées au XVIe siècle, au XVIIe siècle, qui étaient incroyables. Ces montres de poche qu'on n'est quasiment plus capable de fabriquer en horlogerie. Mais on a quand même des outils techniques qui permettent, je pense, aujourd'hui à l'horlogerie traditionnelle de continuer à se développer et de nous permettre de découvrir des nouvelles techniques.
L'arrivée de ce type de montre, en fait, c'est aussi un challenge pour l'horlogerie, parce qu'elle s'est sentie menacée, pour moi, pas à juste titre, mais bon, après, c'est... Mais elle s'est sentie un petit peu menacée, et du coup, on a commencé à développer des outils. Maintenant, ce type de entre guillemets, montre, c'est aussi une question d'activité, de ce que vous en faites, parce que si vous êtes sportive et que vous avez besoin de savoir, je sais pas, votre fréquence cardiaque ou Dieu sait quoi, ce qui n'est absolument pas mon cas, oui, alors très bien, pourquoi pas. Mais je pense que c'est vraiment pour une certaine partie de la population. Et ça n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut avoir les deux au poignet. Je veux dire, on a deux poignets, hein, on a même deux chevilles aussi.
Mais c'est vrai qu'on perd le côté émotionnel pur de l'horlogerie.
Complètement, parce que c'est... ouais, c'est... Je sais pas, moi j'aime bien mon ordinateur, hein, il est beau, il est mignon, il est rose, etc. Mais je sais que dans 2 ou 3 ans, il sera mort, il faudrait que je le remplace, mais voilà. En revanche, ma montre, ça me ferait très mal.
Mais la montre, normalement, les horlogers, continuité de cette profession, on pourra toujours vous réparer votre montre, si tant est qu'elle soit mécanique, bien entendu.
Tout à fait. Et puis, il y a une notion qui est très, très importante pour moi, c'est la notion de transmission. Je ne me vois pas transmettre mon Apple Watch ou mon MacBook ou Dieu sait quoi à mes enfants qui s'en fichent, ça sera obsolète et mort et enterré d'ici là. En revanche, les montres que j'ai, effectivement, pour moi, je veux qu'elles continuent de vivre après moi.
Justement, nous arrivons à la fin de notre entretien. La tradition chez Iconic Talks, c'est de terminer avec 2 questions iconiques. Alors, vous avez une petite collection de montres, vous l'avez évoqué. Quelle est la montre fétiche de votre collection et pourquoi ?
Alors, j'ai diplomatiquement, j'ai un rapport spécial avec chacune de mes montres, même si je ne me souviens plus exactement de toutes les montres que j'ai. Mais celle qui vraiment est chère à mon cœur, et c'est la montre de ma vie. Et à la base, je voulais être enterrée avec, mais ma fille la veut, donc elle continuera de vivre sur le poignet de ma fille quand je ne serai plus là. C'est ma première montre mécanique et c'est une Seamaster Aquaterra. Première génération, je crois qu'elle fait 41 ou 42 mm de diamètre. Et elle est, elle est argentée, enfin, elle n'a rien de... Mais c'est ma première montre et je l'aime. Et c'est la première montre, quand ma fille était bébé, qu'elle regardait parce qu'elle brillait vu qu'elle était argentée. Et donc, j'ai une relation très, très forte avec cette montre.
Enfin, si vous étiez une complication horlogère, laquelle seriez-vous ? Pourquoi ?
Une complication horlogère, alors je serais une toute petite complication, l'affichage du quantième. Voilà, donc utile. Et si je ne suis pas là, ce n'est pas très grave. Mais c'est utile, je pense.
Juste pour le côté utile ?
Juste pour le côté utile, juste pour le côté un petit peu qui vient perturber le cadran, je ne sais pas. Mais... Je ne serai pas une phase de lune, je ne serai pas un quantième perpétuel parce que je suis quand même une femme avec des goûts assez simples. Et je trouve que le quantième, c'est quelque chose de simple.
Juste une touche et tout, voilà. Qui marque. Merci Charmila d'avoir accepté l'invitation d'Iconic Talks. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker ce podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode de Iconic Talks.